L'évangile de Luc, au chapitre 22, avec un focus sur la fin de ce verset 32 ce matin. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et quand tu seras revenu, affermis tes frères. Quand tu seras revenu, affermis tes frères. Prions. Seigneur éternel, c'est ta parole maintenant que nous voulons étudier. Nous voulons la laisser et la détacher pour qu'elle vienne prendre possession de nos âmes, qu'elle nous imbibe tout entier, qu'elle nous remplisse, tel le liquide rempli d'éponge, Seigneur, que nous soyons imbibés de toi. Rempli de ta présence, heureux et disposé à faire ta volonté. Que non seulement nous entendions ta parole, Seigneur, rends-nous capables de la recevoir, mais aussi de la mettre en pratique. Et que nous partions de ce week-end informés sur Satan et sur la grande barrière que tu mets entre nous et lui, Seigneur, mais disposés à plier le genou devant toi et à nous soumettre à toi en toutes circonstances, avec la capacité de le faire, par la puissance de ton esprit. Amen. Amen. Il y a de grandes leçons à apprendre de la souveraineté de Dieu, dont j'ai eu l'occasion de vous dire quelques mots ces derniers jours, des choses qui sont profondes et grandes, et une vie entière ne suffirait pas à la sonder, car elle est infinie. Mais certains aspects sont profondément encourageants, par exemple la prière. Et je suis toujours encouragé de voir cet parfait équilibre qu'il y a entre notre prière et la souveraineté de Dieu. Les gens qui s'opposent abusivement à la souveraineté de Dieu, généralement, opposent des réponses comme « Pourquoi prier si Dieu est souverain ?» C'est vrai. Mais également, je pourrais répondre « Pourquoi prier s'il ne l'est pas ?» Vous savez, quand vous regardez Éphésiens 3, 20 et 21, il est écrit que Christ, Dieu, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous lui demandons ou pensons. C'est-à-dire que vos requêtes peuvent être exaucées bien au-delà de ce que vous demandez. Mais en même temps, il y a une deuxième grâce, c'est qu'il est possible que vos requêtes ne soient pas exaucées parce que vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la grâce de Dieu qui se manifeste au travers de sa souveraineté en vous exauçant bien au-delà de ce que vous demandez d'une part et de l'autre côté, en n'exauçant pas vos prières que vous faites selon vos convoitises ? Quelle grande grâce est celle de Dieu quand il nous enveloppe de sa présence souveraine pour nous protéger jusqu'à nous-mêmes de nous-mêmes. Prenons garde à notre marche, chers amis, parce que toute prière n'est pas bonne. Par exemple, le diable peut prier. Il nous faut faire preuve de beaucoup de prudence lorsque nous cherchons à comprendre les Écritures et à diriger notre vie d'après elles. Tous les exaucements de prière ne signifient pas que Dieu prenne plaisir dans ceux qui les ont prononcés, car il en est certain qu'ils demandent pour satisfaire leur convoitise, et Dieu, s'il leur donne ce qu'ils ont envie d'avoir, ce sera uniquement la preuve qu'il ne prend pas plaisir dans ceux qui ont pour Dieu leur ventre et qui vivent pour ce monde. Certainement pas, car un pareil exaucement est juste la valeur d'un jugement. Quand les gens sont exaucés selon leur propre convoitise, selon leur propre désir, prenant le monde pour Dieu et ayant pour Dieu leur ventre, et qu'ils ont des exaucements de prière, comme dans le psaume 73 qui a été rappelé par un groupe hier, et que dans ce psaume vous voyez que des gens vivent dans l'abondance, profitent des grâces de Dieu jusqu'à leur mort. Mais croyez-vous que Dieu prenne plaisir en cela? Certainement pas, car pareil exaucement a la valeur d'un jugement, Dieu les place en réalité sur des voies glissantes. Psaume 73, verset 18. Mais comme je le rappelais à ses élus, le Saint-Esprit dit: vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Il y a donc des exaucements de prières qui sont pour la ruine de ceux qui les ont prononcés et des refus divins qui sont la plus haute manifestation de la grâce de Dieu en faveur de ceux qui sont à lui, en faveur de ses élus, parce qu'il est la main qui me délivre de la folie de mes projets, de mes complots fomentés contre lui, par lesquels j'ose même présenter une prière pour assouvir mes propres convoitises. Combien de fois cela nous est-il pas arrivé? Mais quelle grande grâce de Dieu lorsqu'il ne nous exauce pas, lorsque nous sommes à moitié fous de faire pareille requête. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé. quelle curieuse information, chers amis, parce qu'il semble que le diable puisse non seulement prier, mais en plus être exaucé. Mais ne vous imaginez pas un seul instant que cet exaucement de prière soit la preuve de quelque amour que ce soit pour l'ennemi de nos âmes. Certainement pas. C'est juste, simplement pour lui, l'obtention de l'autorisation de tester le métal précieux issu du trésor de Dieu, à savoir ceux qui lui appartiennent, nous. Pourquoi est-ce que Dieu exauce Satan ? Écoutez, c'est une bonne question. On n'est pas appelé à connaître toutes les raisons pour lesquelles Dieu permet à Satan de toucher jusqu'à nos chairs et nos os. À trop vouloir creuser sa volonté secrète, parfois on perd le but. Parfois on cherche la volonté secrète de Dieu, mais on en oublie même d'obéir à sa volonté révélée. On est en train de chercher les plans secrets de Dieu, et les commandements qui sont devant nous, on les néglige. Mais parfois, il nous laisse entrevoir pourquoi les saints doivent être criblés comme le blé. Et à vrai dire, il appartient au blé d'être criblé. Tout simplement parce que c'est du blé. Il faut bien qu'à un moment donné, le blé soit passé au crible. Le crible, ça produit un résultat qui est désirable en pareil cas, la séparation de la balle et du grain. Et c'est pour le bien des croyants que Dieu permet le crible de Satan. Et le résultat obtenu est en réalité des plus enviables. Essayons de méditer un peu sur le crible que Dieu fait passer sur nous au moyen de l'adversaire. Quand tu seras revenu, affermis tes frères, dit le texte à l'étude ce matin. Serrons dans notre cœur cette parole de Christ et notons que, premièrement, les attaques de Satan sont une réalité et une nécessité. Deuxièmement, les requêtes de Christ sont toujours honorées. Et troisièmement, celui qui est ainsi restauré est toujours missionné. Ça sera le menu ce matin, ça sera notre plan. La première chose donc, c'est que l'œuvre de Satan est nécessaire, la nécessité de l'œuvre de Satan. C'est plus qu'une simple logique, c'est plus qu'une simple cohérence, c'est une nécessité. Récemment, on a eu des baptêmes dans notre église à Montreuil, et nous avons baptisé 4 Bambara. Pour ceux qui ne connaissent pas les Bambara, c'est un peuple du Mali, d'Afrique de l'Ouest, c'est ce qu'on appelle un peuple non atteint. Il n'y a presque pas de catholique ou de christianisme nominal, christianisme traditionnel sur place. Il n'y a presque pas d'évangéliques, moins de 1%, et ce peuple est considéré comme non atteint. Ils ont pris une décision de suivre Jésus-Christ suite à la semaine d'évangélisation que nous avons fait en avril-mai à Montreuil. Et lorsqu'ils sont venus dans mon bureau, ils sont suivis par Greg Powell, pour ceux qui le connaissent, qui a commencé un culte avec eux, et qu'ils m'ont annoncé leur intention de se faire baptiser. La première chose que je leur ai dit, ça a été « faites gaffe ». J'aurais pu leur dire « bravo ». J'aurais pu leur dire « ouais, super ». J'ai préféré leur dire « chers amis, vous allez être attaqués ». Vous allez être attaqués avant votre baptême. Vous allez être attaqués après votre baptême. Parce que c'est une décision fortifiante de la foi. Et les anges dans les cieux se sont réjouis au jour de votre régénération. Mais ils se réjouiront tout autant le jour où votre décision sera publique, manifeste, proclamée devant tous. En plus, on l'a traduit en arabe, en français, on l'a filmé, on l'a mis sur YouTube et tout le monde a vu ça. Et on s'en glorifie devant l'ensemble des 25 000 Maliens qui habitent la ville de Montreuil, de ce que 4 Bambara ont eu le courage de quitter leur foi traditionnelle pour se tourner vers Jésus-Christ en vérité, et de ce que leurs noms sont désormais inscrits dans le livre de vie, qu'ils ont leur place dans les cieux, qu'ils sont unis à Christ, assis avec lui dans les lieux célestes, et que dans le ciel, lorsque devant le trône de l'agneau, tous les peuples et toutes les nations chanteront dans leur propre langue les louanges de l'agneau, vous entendrez du Bambara. C'est juste énorme. Mais à combien plus forte raison l'adversaire allait redoubler d'attaques contre eux ? Il y a quelque chose de cohérent dans le fait que les élus de Dieu soient attaqués par Satan, en particulier dans les moments clés de leur vie. Il était désireux de mettre la main sur le fougueux Pierre, pour le secouer le plus qu'il le pouvait. Et cette tentation était forte. Et Pierre dit, « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Veut-il tenir ferme pour son sauveur ? Satan ne tarde pas à l'attaquer spécifiquement et vient frapper là où ça fait mal pour lui faire perdre tout confort en Jésus-Christ. L'attaque de Satan, elle est logique. L'attaque de Satan, elle est cohérente. L'attaque de Satan, dans un sens, elle est normale, quoi. Mais ce que je vais affirmer maintenant, c'est que les réclamations de Satan au sujet des croyants ne sont pas seulement normales, mais elles sont aussi nécessaires. Elles sont nécessaires pour vous. Et cela sous deux aspects. Pour vous-même, mais aussi pour les autres. Nécessaires pour nous-mêmes, tout d'abord. Satan souhaite sans aucun doute que Dieu permette que le bon grain tombe au sol, soit foulé aux pieds, mais le Créateur décrète que la tentation diabolique puisse être présent et il s'en sert comme un moyen pour séparer la balle du grain, pour séparer l'impureté du bon grain et permettre d'amasser un grain pur et propre dans ses greniers royaux. J'aimerais juste vous en faire appel à votre expérience. Considérez quand le diable vous a attaqué. Est-ce qu'il ne vous a pas fait prendre bien souvent un bien meilleur tournant que celui qu'il avait l'intention de vous faire prendre? Il vous attaque juste pour vous faire perdre la foi et il vous conduit invariablement dans la repentance si vous appartenez à Dieu. Oh, comme il est bon de se repentir et de s'abaisser devant Dieu. Et bien souvent, ce sont les attaques de Satan qui nous ont conduits dans cette dimension-là. Considérez cela. Après tout, lui aussi n'est qu'un instrument entre les mains du Créateur. Et comme le dit Charles Spurgeon, il est un simple plongeur dans la cuisine de Dieu pour laver sa vaisselle. Et vous êtes des vases d'honneur, des vaisselles d'honneur placées dans le grand vaisselier de Dieu. Et c'est Satan qui fait la plonge en vous nettoyant de toutes les impuretés. Vous êtes les vases de Dieu choisis par lui pour faire partie de son glorieux vaisselier. Et si nous pouvions être simplement un atome de poussière du paradis, on serait déjà les plus heureux du monde. Mais nous sommes dans le vaisselier de Dieu, des vases d'honneur faits d'or pur, des vases d'un usage noble qu'il a réservé d'avance pour sa gloire. Si nous pouvions simplement être un atome et un micron dans la présence de Dieu, mais nous sommes bien plus que cela. Nous faisons partie de sa vaisselle d'honneur. Armez-vous de cette pensée. Aucun vase ne peut être fait d'or sans passer par le feu. De même, il est impossible d'être façonné en vase d'honneur à moins d'avoir été fondu et purifié dans la fournaise de l'affliction. Et également, plus le diamant est taillé, plus il étincelle, plus la croix est lourde, plus la couronne des saints sera imposante. Ces deux citations sont du puritain Thomas Watson. Il est nécessaire que les épreuves et les tentations tombent sur vous, et Satan est un instrument dans cette dimension-là. 1 Pierre 5, versets 6 et 7. Il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, et pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Oui, il est nécessaire que vous soyez éprouvés. Oui, il est nécessaire que votre foi soit éprouvée. Oui, il est nécessaire que les tribulations vous enveloppent afin que vous soyez purs, sans tache, une génération pure au milieu d'une autre génération perverse. L'Église de Christ qui brille comme des flambeaux dans le monde. Et l'erreur classique qui consiste à dire que c'est en voyant nous amuser que le monde va voir qu'on n'est pas si différent d'eux et que leur donnera envie de venir vers nous, c'est une erreur. Parce que c'est en voyant l'Église différente et en voyant l'Église souffrante et persévérante dans les souffrances que le monde verra ce que ça veut dire que d'être chrétien. L'Église est à ce point différente du monde qu'invariablement elle l'attire. Et le moyen par lequel elle est différente du monde, c'est les afflictions spécifiques qui tombent sur elle. Ainsi parle la parole de Dieu. Et Satan est juste un instrument dans cette dimension-là. Donc, c'est nécessaire que Satan vous attaque. C'est nécessaire pour vous-même, pour votre propre purification, pour votre propre croissance avec Christ, pour que l'impureté puisse être décrochée du bon grain et que vous soyez amassés dans les greniers royaux du Seigneur à la fin de votre existence. Mais c'est également nécessaire pour les autres. Dieu a de bonnes raisons de nous laisser entre les mains de Satan pour un temps seulement, et jusqu'à un point précis, bien sûr, qu'il a d'avance déterminé. Et une bonne partie de ces bonnes raisons est davantage liée à la relation que vous entretenez avec vos frères et sœurs et avec ce monde qu'à vous-même. L'épreuve de votre foi plus précieuse que de l'or. Oui, elle est précieuse, l'épreuve de votre foi. Et une bonne partie de cette préciosité, c'est l'utilité. Premièrement, celui qui est tenté et qui reste attaché à Dieu, c'est juste un exemple vivant pour ceux qui l'entourent. Vous avez entendu parler de la patience de Job, nous dit Jacques. Mais vous n'auriez jamais entendu parler de la patience de Job si Satan ne l'avait pas passé au crible. Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Mais il n'aurait jamais, jamais été un exemple pour nous, croyants, s'il n'avait pas été placé sous un régime de souffrance, apprenant l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Chers amis, c'est normal que nous ayons des exemples en ces personnes-là parce qu'elles ont persévéré jusqu'au bout dans la foi et pour Christ dans l'obéissance alors qu'elles étaient accablées des plus grandes souffrances. Par conséquent, regardez l'exemple qui nous est présenté devant les yeux et soyons un exemple pour les autres en tenant ferme dans ces souffrances-là. C'est nécessaire pour les autres qu'ils vous voient souffrir et qu'ils vous voient persévérer dans la souffrance. Deuxièmement, celui qui est tenté peut davantage comprendre ceux qui sont tentés. En guise d'exemple suprême, celui de notre sacrificateur, prophète et roi, Jésus-Christ, qui peut parfaitement nous entendre, parfaitement nous comprendre, parfaitement compatir à nos faiblesses, car, comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans jamais connaître et commettre le péché. Il est facile de prendre les gens de haut, de préjuger de leur état spirituel lorsque nous les voyons passer par le crible de la tentation ou d'une addiction ou de l'épreuve ou d'une lutte avec tel ou tel péché. C'est facile de considérer que tel ou tel qui lutte avec tel problème est le pire des chrétiens. Mais il m'est bon d'être affligé et humilié afin que j'apprenne ce que l'autre ressent et que je puisse compatir avec lui quand il souffre. J'avais une chef chez Adeco quand j'étais dans le travail temporaire. Elle avait un maître mot, elle disait tout le temps « empathie, 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 empathie ». C'est-à-dire le fait de comprendre, de se mettre à la place de la personne. Je me souviendrai toujours, on vivait un métier sous stress. C'était de la vente à court terme. En permanence, vous pouviez vous faire shipper le contrat dès le lendemain. Il n'y avait aucun contrat sur plusieurs années. C'était du one-to-one, une mission, une mission, une mission. Chaque fois que vous placiez un bonhomme, la concurrence était rude. La tension était dure, la crise financière nous a frappés de plein fouet, il y avait une forte pression sur nous, et elle n'arrêtait pas de répéter « empathie, 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 empathie ». Mettez-vous à la place de l'autre. Et je crois que dans l'Église, plus que jamais, c'est valable. Vous ne le mesurez peut-être pas, mais vous avez une pression de dingue sur les épaules. Ce n'est pas la pression d'un responsable, ce n'est pas la pression d'un trader même. Vous avez la pression du diable qui pèse sur vous en permanence parce que vous appartenez à Dieu. Personne ne subit une telle pression dans ce monde. Troisièmement, la tentation qualifie le chrétien davantage pour le service des saints. Celui qui vit pour les autres se doit de souffrir pour les autres. Et en tant que chrétien né de nouveau, nous sommes appelés à faire passer l'intérêt des autres avant le nôtre. À donner notre vie pour les frères, comme dit 1 Jean chapitre 3 verset 16. Ce sacrifice agréable à Dieu, ce n'est pas possible en dehors de celui qui a été façonné et forgé par la souffrance pour cela. Écoutez ce que dit Charles Spurgeon encore lui. Il dit « En tant que pasteur, je pourrais bien être tenté, car la tentation est l'un des meilleurs livres dans la bibliothèque d'un ministre de l'Évangile. En tant que parent, vous pourriez bien avoir besoin d'affliction, car un père sans épreuve ne peut donner que peu de conseils à un enfant qui subit de plein fouet la tentation. Acceptons cette remarquable discipline dès lors que nous sommes appelés un remarquable service. » Alors, vous n'êtes pas tous pasteurs dans cette salle, mais vous avez tous des responsabilités en rapport avec l'appel qui vous a été fait. Le premier d'entre elles, c'est de partager l'Évangile. Vous avez reçu le Saint-Esprit comme une puissance pour le témoignage. Et dans vos responsabilités, vous êtes appelés au plus grand des services. Dans un sens, nous sommes tous appelés à prêcher. Prêcher à notre entourage. Parler de l'Évangile à ceux qui nous entourent. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous avez un remarquable service. Acceptez donc la remarquable discipline qui l'accompagne et qui vous qualifie et vous purifie pour ce service. Quatrièmement, celui qui a été criblé et qui est revenu peut encourager avec bien plus d'acuité, bien plus de précision ceux qui passent par les mêmes tourments. Pensez à David restauré et souffrant qui écrit dans le psaume 132 « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Veux-tu être dans cet état ?» On a l'impression qu'il nous dit ça. « Est-ce que tu veux être comme moi ?» Est-ce que tu veux tomber dans les mêmes travers que moi ? Non, mon ami, non ! Alors sors de ta léthargie spirituelle, fais connaître à Dieu ton péché afin qu'il efface la peine de tes transgressions et que tu repartes. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence, dit-il au verset 9. Ne sois pas comme moi, ne fais pas ce que j'ai fait, ne tombe pas dans le fossé dans lequel je me suis effondré. Reviens à Dieu qui est toujours prêt à accueillir celui qui vient à lui avec un cœur repentant et qui est prêt à le restaurer. Il fallait un David tenté, il fallait un David éprouvé par le diable, puis restauré pour pouvoir dire, après sa chute avec Bathsheba dans le psaume 51, « J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. » Et les pécheurs reviendront à toi. Prenez-en de la graine de cet exemple de David. Parce que bien souvent, nous chutons douloureusement et lourdement, et la première chose que nous nous disons, c'est « Je suis disqualifié pour le service. » Et je ne reviendrai pas. Parce que je me suis effondré. Combien de fois n'avons-nous pas fait de telles lamentations devant Dieu ? Oh, nous sommes des gros bébés, bien, qui ont bien pitié, qui pleurent pour avoir leur biberon, hein, pas vrai ? Mais il est temps des fois que nous soyons matures. Hein. La repentance conduit naturellement et toujours à la restauration. Quand tu seras revenu, affermis tes frères. Il est nécessaire que vous soyez tentés. Il est nécessaire que vous soyez éprouvés. Il est nécessaire que vous soyez affligés, que vous soyez défiants de votre propre cœur. C'est nécessaire pour vous, mais c'est combien plus nécessaire pour les autres. Les autres sont plus importants que vous. Les membres de votre église locale sont plus importants que vous-même. Les gens qui sont à l'extérieur de votre église locale sont encore plus importants que ceux de votre église locale. Gagner des âmes, servir les autres églises, ceux qui souffrent, ceux qui sont perdus. Ça fait 2 ans que je suis à plein temps. Je crois que j'ai consacré au moins autant de temps aux églises à l'extérieur de la mienne qu'à la mienne. Et plus encore maintenant. Pourquoi ? Parce que je n'aime pas mon église ? Non. Parce que je vous aime. Et parce que je veux prendre du temps avec vous. Ça me paraît juste être logique que de faire profiter aux autres des dons qu'on a reçus. Vous avez tous reçu des dons. Ne les gardez pas pour vous-même. Ne les gardez pas pour une espèce de bouteille dans laquelle seuls quelques petits chinois seraient enfermés. Partagez-la. Vous avez reçu beaucoup, comme je vous le disais tout à l'heure, et ce n'est pas de la tchatche à bon marché. C'est nécessaire. Ce que vous vivez dans vos vies et que vous n'exprimez pas forcément à haute voix est nécessaire pour vous. Deuxième chose que je voudrais relever sur ce texte que nous avons lu, c'est que les prières de Christ, les requêtes de Christ, sont toujours honorées. Et j'en ai déjà dit quelques mots ces derniers jours, mais la prière de Christ à la valeur d'un décret du Père. Et j'ai cité, vous vous souvenez, ce verset de Jean 11, 42, « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, dit Jésus-Christ, au moment de la résurrection de Lazare. » Mais si vous scrutez avec attention ce merveilleux passage qui traite de la résurrection de Lazare, qui se trouve dans Jean chapitre 11, versets 1 à 45, dans lequel d'ailleurs se trouve le verset le plus court de la Bible. Quel est le verset le plus court de la Bible ? Bien joué. Vous ne trouverez pas une seule trace dans tout ce passage d'une quelconque prière de Christ, mais bien plutôt une action de grâce. Laissez-moi vous la lire. « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Vous ne le voyez pas prier, vous le voyez rendre grâce de ce qu'il a été exaucé. C'est étrange, n'est-ce pas ? Bien entendu, il ne s'agit pas pour Jésus en quelque sorte d'amuser la galerie et de montrer combien il prie bien. Notre maître n'a rien de commun avec ces pharisiens ou même ces chrétiens qui font pour l'apparence de longues prières. Mais bien plutôt, comme le note le professeur Carson, qui est un grand spécialiste du Nouveau Testament, il dit que premièrement, cette prière cherche à attirer ses auditeurs dans l'intimité de la relation avec Jésus et avec son Père. La prière démontre que Jésus ne fait rien par lui-même, mais qu'il est totalement et dépendant et obéissant à la volonté de son Père. En aucun cas, il s'agit de faire une démonstration de « regardez comme je prie bien ». Maintenant, regardez le langage plein d'assurance de Jésus au moment où il ressuscite Lazare. Il dit au verset 11 « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller ». Il a l'air sûr de son coup, Jésus. Hein. Verset 23 « Ton frère ressuscitera ». Il a l'air d'être encore sûr de son coup. Verset 43, cette parole « Lazare, sort ». Parce que la prière de Christ avait précédé la mort de Lazare comme elle avait précédé la chute de Pierre. La prière de Christ pour les siens, chers amis, est une prière éternelle. Est-ce que vous croyez que quand il est venu sur la terre, il a été surpris de quoi que ce soit ? Rien du tout. Il est le Dieu éternel. Les seules choses qu'il ne savait pas sont celles qu'il a refusé volontairement de savoir. Je dis ça pour couper court à vos spéculations, dont vous ne manquerez pas de me poser quelques questions tout à l'heure. On appelle ça l'abaissement volontaire de Christ, la kénose. On en parle après, si vous voulez bien. Les prières de Christ pour les siens sont systématiquement éternelles. Il prie en dehors de la ligne de temps. À chaque fois qu'il prie, il le fait de toute éternité. Dites-vous qu'il a prévenu de toutes vos chutes. Vous pensez qu'il est surpris quand vous vous prenez le pied dans le tapis ? Vous pensez que Dieu découvre « Oh mince, Alain s'est éclaté en se prenant le pied dans la table de ping-pong, je vais le relever. » Mais tu rigoles ou quoi ? Il l'a vu éternellement que t'allais t'éclater. Et il a prié. Et toutes les circonstances sont dans sa main. Lazare sort. Et il est sorti. Et la prière de Christ, chers amis, a la valeur d'un décret divin. Ceux qui ont été donnés à Jésus-Christ par le Père dans cette alliance de rédemption éternelle que nous avons lue hier dans Jean 17, ces gens-là reviennent toujours. Toujours. Mais quel doux réconfort. Il dit à Pierre, quand tu seras revenu, mais vous vous rendez compte, j'ai prié pour toi, c'est sûr que tu vas revenir. J'ai prié pour toi, tu vas revenir. Pierre allait revenir à l'instant même où Jésus allait lui dire, reviens. Et vous connaissez l'histoire. Pierre, m'aimes-tu ? Seigneur, tu sais que je t'aime. occupe-toi de mes brebis. Je me souviens de mon premier pasteur, mon seul et unique pasteur, à vrai dire, Daniel Touche, quand j'étais à l'église baptiste de Colombes. J'avais rencontré un Égyptien, j'ai fait de l'évangélisation, en fait, dès que je me suis converti, et j'allais faire de la distribution à la gare de Fontenay, à côté de chez moi. J'avais rencontré un Égyptien, le gars parlait pas très bien français, j'avais ramené un pasteur qui parlait arabe, et cet Égyptien semblait vouloir, c'était un musulman, il semblait vouloir se tourner vers Jésus. Et un jour, il a disparu. On ne l'a jamais revu. J'étais vraiment triste, hein. J'en avais pleuré à l'époque. C'était l'époque où je pleurais encore. J'avais été voir Daniel Touche et je lui avais dit « Mais regarde, mon travail, il sert à rien, quoi. Je prêche l'évangile tous les jours, j'ai jamais vu de conversion. Ce gars-là, il allait se convertir, il s'en va, je suis nul, je sers à rien, quoi. » Et il m'avait juste dit ça, il m'avait dit « Guillaume, s'il est vraiment à Christ, il reviendra. » Ça m'a laissé sur les fesses. Je croyais que je faisais de l'évangélisation et que ma technique oratoire pour séduire les gens, c'est bien dans l'église. Mais heureusement que ça ne marche pas comme ça, parce que sinon, comment nos églises ne seraient pas remplies du tout? Oh, comme je suis doué pour vendre des fenêtres. Certainement pas pour présenter l'offre de grâce. Aucun VRP ne peut vous la vendre, celle-là, parce que ça va contre notre nature. Chers amis, il y a une grande bénédiction à méditer cette réalité. Ceux qui sont réellement à Jésus-Christ reviennent toujours. Placez votre confiance en lui, accrochez-vous fermement à sa personne, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, travaillez à votre affermissement en lui, travaillez à votre persévérance, souffrez avec lui, prenez du temps pour votre marche quotidienne avec lui, lisez la Bible le matin, soyez disciplinés, mangez le pain venu du ciel, abreuvez-vous de ses bonnes paroles, priez également, priez souvent, dit John Bunyan, priez souvent car la prière est un bouclier pour l'âme, un sacrifice pour Dieu, un supplice pour Satan, dit John Bunyan. Oui, occupez-vous de ces choses, oui, donnez-vous tout entier à elles, que ce soit publiquement ou secrètement, que ce soit l'occasion favorable ou non, mais n'oubliez jamais que c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et selon ce que dit Ésaïe 26:12, Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, tout ce que je fais, c'est toi qui l'accomplis en moi. Il fait tout. Depuis ta conversion jusqu'à ta persévérance, ta sanctification, jusqu'à ta glorification, tu souffres, tu luttes, tu combats, tu te bats, mais il est là et c'est lui qui fait le job de A jusqu'à Z. Oui, ceux qui sont à Jésus-Christ reviennent toujours. Chers amis, êtes-vous nés de nouveau? Est-ce que vous êtes scellés du Saint-Esprit? Est-ce que vous avez placé votre confiance en lui pour votre salut? Alors dans ce cas, n'ayez aucune crainte pour votre persévérance finale. Que votre crainte se focalise sur Dieu et sur sa puissance. Que votre crainte se focalise sur celui qui est l'auteur de cette persévérance, non pas à cause de la terreur du châtiment, mais à cause de la grandeur de la puissance par laquelle il vous maintient en vie. Parce que tous ceux qui sont à Jésus-Christ reviendront sûrement. Craignez cela. Craignez celui qui a la puissance de vous faire persévérer jusqu'à la fin. Craignez-le respectueusement, mais ne craignez plus l'ardeur du châtiment si vous êtes en lui, car il vous fera persévérer jusqu'à la fin. Et le témoignage intérieur que vous avez de cela, c'est la manière dont il traite votre vie aujourd'hui, et comment vous regardez votre vie passée, votre péché, votre conduite. Vous voulez affermir votre vocation? Vous voulez affermir votre élection? Méditez ces choses-là, et vous verrez que c'est Dieu qui fait tout, de A jusqu'à Z. Et plus vous serez au fait de cette réalité, d'une manière pratique, vous voyez ce que je veux dire par là. C'est facile de connaître ces choses intellectuellement. Après tout, c'est écrit dans la Bible. Mais à quel moment je les connais pratiquement? C'est quand je suis dans le feu de l'épreuve, et que je peux chanter tout va bien avec mon âme. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est avec lui. Oh, on aime bien le chanter le dimanche matin, mais viens le chanter quand ta femme te quitte. Viens le chanter quand tu découvres que tu as un cancer. Viens le chanter quand ton frère, ta sœur, ton fils, ta fille vient de se faire shooter par une bagnole et est en train de mourir à l'hôpital. Chante ce cantique-là. Ça s'appelle être au fait de la souveraineté de Dieu. Notez qu'il n'y a aucune place pour la prospérité dans cette affaire. Troisième chose que je voudrais relever, et dernière chose. Regardez avec moi la mission de celui qui revient au pied de la croix. Parce que oui, vous persévérerez. Mais vous persévérerez non pas simplement dans la télévision, assis sur le canapé, le doigt sur la télécommande. Vous persévérerez dans le service. Voilà comment s'exerce la puissance de Christ. Regardez de quelle manière Christ a restauré Pierre. Parce que si sa prière éternelle est aussi efficace qu'un décret éternel, il fallait toute la douceur du Sauveur pour faire comprendre à Pierre quelle serait désormais sa mission. Et je crois qu'il y a des chutes, elles nous paraissent irréversibles. Mais il n'y a pas de détresse si grande qui n'ait de promesse divine qui lui soit opposée. Il n'y a pas de péché trop grand sur lequel la grâce ne puisse pas s'exercer. Le péché du blasphème contre le Saint-Esprit, quel qu'il soit, est certainement un blasphème d'incrédulité absolue, de refus de la grâce, de ne pas se tourner vers lui, tout simplement. Quel que soit ce péché-là, ça n'a rien à voir avec un péché qu'un chrétien pourrait commettre, ça n'a rien à voir avec un esclavage dans lequel tu es. On a dénoncé hier les faux raisonnements, les faux syllogismes du style « un tel péché ne peut pas demeurer chez un enfant de Dieu, puisque je lutte encore avec ce péché, c'est que je ne suis plus un enfant de Dieu ». Mais mon ami, le fait même que tu luttes prouve que tu es un enfant de Dieu. C'est le diable qui inspire pareil raisonnement. La situation de Pierre en particulier semblait particulièrement désespérée. Est-ce qu'il n'avait pas renié le Sauveur, qui plus est avec imprécation, alors qu'il avait promis quelque temps auparavant que même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierais pas ? Il avait toutes les raisons de se sentir exclu à tout jamais du rang de ceux qui suivent Christ, du rang de ses disciples. Mais regardez comment le Sauveur le traite avec bienveillance. Trois fois, il le questionne sur la nature de son amour pour lui. Et trois fois, il y a cette parole de restauration « Occupe-toi de mes brebis, paie mes brebis, paie mes agneaux ». Chers amis, nous sommes sauvés pour servir. Sauvés pour servir. La devise des pompiers, c'est « sauver ou périr ». Mais vous, vous êtes sauvés pour servir. Et Christ est votre vie, et la mort est un gain. Comme le rappelait Clément ce matin, oui, notre vie aura une fin. Oui, nous sommes étrangers sur cette terre. Oui, nous ne sommes pas des touristes, nous sommes des voyageurs. On la traverse avec beaucoup de tribulations, mais en même temps, on prêche la parole, cherchant à en sauver quelques-uns. Excusez-moi. Peut-être passez-vous par les eaux de l'affliction. Peut-être que ce matin, le diable s'acharne sur vous. Peut-être que vous êtes tombé dans l'erreur. C'est un grand mal que de tomber dans l'erreur. Oh, que vous puissiez revenir à lui rapidement en pareil cas. Peut-être même vous ressentez comme un déclin général de la grâce dans votre âme. Et vous arrivez ce matin, et vous faites des exercices publics d'adoration et de louange, vous faites des gestes devant le cantique, vous levez la main façon Hillsong, n'est-ce pas, et tout ce qui va avec. Mais en fait, dans votre culte privé et personnel, c'est vide, c'est sec, et tout n'est qu'apparence. Oh, moi, j'en sais rien. J'ai pas le don d'ubiquité. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous personnellement, mais je sais ce qui se passe dans mon propre cœur. Et ça m'est déjà arrivé de venir et de prier en public et avoir du mal à prier dans mon culte privé, et pas qu'une fois. Ça m'a même pris certaines périodes, vous savez. Ça m'arrive encore. Quand on sait ce qu'il y a dans son propre cœur, on ne se fait pas trop d'illusions sur le cœur des autres. On est tous forgés du même moule. Mais si tel est le cas, ce matin, écoutez l'appel du berger. Reviens et serre. J'ai toujours du mal quand les gens viennent me dire « Je suis dans tel péché, je te confesse que je suis dans tel truc. » J'ai mal parce que je souffre de telle addiction, alors je pense que je ne suis pas qualifié pour le service et je vais arrêter. Qu'un ancien soit disqualifié sur la base de sa moralité, c'est une chose. Que quelqu'un qui lutte avec tel aspect moral de sa vie soit mis out de tel ou tel aspect du service, il faut vraiment y aller avec beaucoup de pincettes. Parce que c'est par le service qu'on grandit dans la foi en Jésus-Christ, et certainement pas par l'intellectualisme. Vous pouvez intégrer toutes les vérités doctrinales que vous voulez, c'est pas ça qui vous fera grandir. Elles sont utiles, hein. Vous ne pouvez pas faire sans la pensée des actes qui soient cohérents avec la parole de Dieu. Vous devez les réfléchir et la méditer. Mais si votre parole n'est pas suivie d'actes, jamais vous ne grandirez. Vous croyez que le bébé, il grandit simplement parce qu'on lui dit « je t'aime bébé ». À un moment, il faut lui donner le biberon, hein. Puis un jour, vous lui donnez de la viande au bébé. Je dis ça, on ne sait jamais, vous aurez peut-être des enfants un jour. Hein. Reviens, et quand tu seras revenu, affermis tes frères. Et regardez la nature du service auquel celui qui est appelé doit revenir. Affermis tes frères. Vous savez, j'ai grandi à côté d'un parc qu'on appelle le parc des Beaumonts à Montreuil, un endroit extraordinaire, avec un parterre de gazon clairsemé de quelques seringues. C'est toujours agréable d'aller se balader dans ce parc. Et ce parc a été bâti sur d'anciennes carrières. Et vous savez, il y avait des maisons qui étaient construites Et un des grands travaux qui a été fait par une précédente mairie, ça a été de tenter d'affermir les fondations de certains bâtiments qui menaçaient de s'écrouler parce qu'ils étaient instables sur certaines carrières. Et c'est exactement ce que le mot stériso, qui est utilisé ici, ça veut dire. Ça veut dire renforcer, rendre ferme. La mission de celui qui revient au solide fondement, à savoir Christ, c'est d'affermir et de fortifier ses frères sur la base de ce solide fondement. Laissez-moi vous donner, je pourrais vous en donner des dizaines, mais juste trois raisons pour lesquelles celui qui revient est particulièrement appelé à affermir ses frères. Déjà, ça paraît logique, mais on va le dire quand même, il semble que ça soit le premier de ses devoirs. Je veux dire, Pierre avait une position éminente parmi ses frères. Le jour où il se rétame de tout son nom, il entraîne tout le monde avec lui, au moins dans le découragement. Ce que je veux dire par là, c'est l'influence désastreuse de Pierre sur ceux qui ont été autour de lui le rendait quand même un petit peu redevable par rapport à eux. Si vous avez un doute là-dessus, regardez le scandale récent qu'il y a eu avec Tony Anthony. Est-ce que vous vous rendez compte le nombre de personnes qui se sont converties sur la base du bouquin L'œil du tigre, qui semble n'être finalement qu'un tissu de mensonge? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, Tony Anthony, dehors Tony Anthony. Certainement, il y a un ministère public qui, à un moment, ne sera plus possible. Mais lui aussi, il peut revenir. Et lui aussi, il peut affermir ses frères. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Tant que j'ai mitonné, j'étais dans la détresse. Tant que je vous ai raconté des craques, j'ai fait n'importe quoi de ma vie, mais Dieu qui est riche en miséricorde m'a ramené, m'a rétabli sur ce solide fondement qui est Jésus-Christ. Ne tardez pas à confesser vos péchés. Ne restez pas 10 ans à vivre dans le mensonge. Venez au pied de la croix. Remettez-lui vos fardeaux. Je vais vous dire, le chrétien mature, c'est celui qui ne tarde pas à se repentir. Pas celui qui est plus fort et qui ne pêche jamais. Un chrétien mature, c'est celui qui ne tarde pas à se repentir. Oui, Tony Anthony peut être restauré, certainement pas dans sa position initiale, ça c'est possible, mais c'est clair qu'il peut être restauré. C'est pas fini pour lui. Dieu a peut-être encore un plan pour lui. Et prenez garde à vous-même quand vous regardez un pareil homme. Peut-être que ça vous énerve et ça vous dégoûte. Et peut-être bien qu'il pourrait revenir. Par conséquent, le retour de Pierre... N'était-il pas nécessaire qu'il proclame son erreur et qu'elle serve d'instruction à la génération future? Regardez, dans les 4 évangiles, vous avez le reniement de Pierre. C'était un fait connu et établi. Tout le monde savait qu'il avait renié. Il ne l'a pas caché, il ne l'a pas dissimulé. Et si, comme le pensent la plupart des spécialistes, l'évangile de Marc a été écrit sous sa dictée, eh bien c'est l'évangile où vous avez le plus de détails sur ce reniement de Pierre. Avec celui de Jean, parce que Jean connaissait... Le serviteur du souverain sacrificateur, à tel point qu'il peut donner le nom du serviteur du souverain sacrificateur, Malchus, et que c'est grâce à lui qu'ils sont rentrés dans le Saint-Germain. C'est une autre histoire. Mais les errements du peuple d'Israël ont été écrits pour nous servir d'exemple, afin que nous ne laissions pas les mauvais désirs envelopper notre cœur. À combien plus forte raison le reniement et la restauration de Pierre ne devaient-ils pas servir à notre instruction, afin que nous ne tardions pas à nous repentir, contrairement à ce qu'a fait M. Tony Anthony? Vous péchez, repentez-vous. Vous êtes dans une situation difficile, confessez-la à un frère. Mais vous croyez que vous êtes seul à pécher? Vous croyez que je ne pêche pas, mais je pêche? Moi j'ai un binôme, il s'appelle Derek, il entend tous mes travers. Et peut-être bien que vous voyez une apparence publique de quelqu'un qui est « waouh, génial ». Vous voyez des prédicateurs charismatiques, des gens qui vous racontent des trucs de ouf. Mais on est juste des vendeurs de traîtres, quoi. C'est bien, j'ai une belle grande bouche, mais je vais vous dire, j'ai ma récompense avec ma belle grande bouche. Dieu saura récompenser les ministères discrets comme Bernard, qui se lève à 3h du matin pour aller faire le petit déjeuner pour vous. Ça, c'est des choses qui plaisent au Seigneur, que de servir son prochain. Les grandes bouches ont leur récompense sur cette terre. Ne jugez pas sur l'apparence. Je ne suis pas meilleur que vous, même pire que vous, si vous saviez. Êtes-vous revenu? Dites à tous ceux qui risquent de tomber dans cette même fosse combien vous étiez fous et faibles, combien vous pourriez mieux exprimer votre gratitude qu'en affermissant les frères les plus faibles, quand Dieu vous a lui-même affermi. Exprimez votre gratitude à Dieu, dites-le, regardez comment j'étais un dingue. Moi-même, je suis resté pendant 1 an sans être capable de prier et d'élever la voix vers Dieu. J'étais assis sur le banc à l'église. J'étais tout seul comme un abruti, je disais rien, j'étais sec, j'avais l'impression d'avoir perdu mon salut et j'en voulais à Dieu, j'étais en colère contre lui. Mais quand je lui ai fait connaître mon péché, il m'a restauré. Oh, comme j'aime raconter ces histoires. Vous savez pourquoi? Parce que ça prouve que je suis un pauvre type et que j'ai un grand Dieu. Je pêche comme un homme. Oh, mais mon Dieu pardonne comme un Dieu. Et c'est ça qui est extraordinaire. Deuxièmement, il possède toutes les qualités requises pour le faire. On en a déjà touché quelques mots, mais celui qui a essuyé les traits enflammés du malin, il est Il est parfaitement expérimenté, il peut parler d'expérience pour pouvoir encourager et reprendre, le cas échéant, ceux qui passent par de telles circonstances. Non seulement il peut les avertir des stratagèmes que l'adversaire va nécessairement leur tendre, mais il pourra aussi leur parler de toute l'amertume et de la souffrance qui résulte du fait de rester dans cet état de refus de se repentir. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Mais celui que Christ a ramené peut également parler de l'expérience lorsqu'il présente au peuple de Dieu son pardon. Combien le pardon de Jésus est doux, combien il est bon d'être renouvelé et restauré dans sa grâce, combien c'est cool quand tu te repens et que tu sens à nouveau la présence de Dieu dans ta vie. Dis tout à Jésus, oh dis-lui tout, combien son amour est doux. Il peut t'entendre, il peut te comprendre, dis-lui simplement tout. Et si vous ne connaissez pas ce cantique, c'est normal, il date du 19e siècle. Vous ne l'aurez pas chez Hillsong. Quand tu seras revenu, affermis tes frères, puisque tu as goûté à l'amertume et à la souffrance de l'éloignement, parle à tes frères et sœurs, avertis les uns, relève les autres, exhorte ceux qui sont faibles, car ton épreuve t'a qualifié pour cela. Troisièmement, ce sera un grand bénéfice pour lui-même. Déjà parce que, en affermissant les autres dans la grâce de Dieu, il verra lui-même combien il a besoin de cette grâce. Encouragez continuellement et de tout votre cœur ceux qui sont faibles, car vous serez ainsi rendus capables de contempler votre propre faiblesse. Toutes les faiblesses et folies que vous voyez chez les autres, croyez qu'elles sont aussi en vous, et cela tendra à vous rendre plus humble. Prenez garde, ne jugez pas celui qui chute, demain ça pourrait bien être votre tour. C'est ce que je vous ai dit hier, je vous ai dit, suspectez-vous d'être capable de commettre n'importe quel péché. Croyez-moi, vous allez évoluer et des trucs que quand vous serez vieux, vous serez tenté, vous n'aurez jamais imaginé pouvoir être tenté de cette manière-là. Satan va venir former des pensées dans votre cœur venues d'ailleurs. Vous vous dites, mais ça, c'est pas possible, comment je peux expérimenter ça? Mais t'es tenté, mon ami. T'es un sol fertile pour Satan. Il va pas te lâcher. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber et que celui qui a affermi ses frères se souvienne de quel bois il est fait. Prends garde à toi-même. Portez les fardeaux les uns des autres. Redressez avec un esprit de douceur celui qui a chuté. Ensuite, celui qui est ainsi utilisé par Christ, il expérimente dans son propre cœur un grand réconfort. Et quel réconfort ça a dû être pour Pierre que son sauveur lui confie pareille charge. C'est facile de dire à quelqu'un « Je t'ai pardonné de m'avoir volé ». C'est encore mieux de dire « Je t'ai pardonné de m'avoir volé et j'aimerais maintenant que tu gères la bourse ». C'est en gros ce que Jésus a fait avec Pierre. Enfin, celui qui a affermi les plus faibles aura soin de prendre garde à sa conduite afin de ne pas leur être en scandale et ce sera une grande source de gain pour sa propre sanctification. Chers amis, quand j'étais dans la vie professionnelle, j'avais un principe que je n'ai pas toujours respecté malheureusement. Je connais mon caractère porté à la filouterie. Je suis un très bon commercial, croyez-moi. Et j'étais un manager qui était un bon commercial aussi quand il fallait faire passer des réformes à mes collaborateurs. La première chose que je faisais quand j'arrivais sur un nouveau poste, c'était de leur dire « Je suis chrétien. Je prêche tous les dimanches dans une église et j'essaye de conformer ma moralité avec celle de Dieu. Alors n'hésitez pas à me dire si ça ne va pas. » Je peux vous dire que ça vous verrouille en termes de conduite pour la suite. Parce que vous savez que vous devez être garant du témoignage. Ça n'a pas été parfait. Je me souviens d'un jour, un responsable de service logistique qui était nul, mais nul. On m'avait imposé son recrutement. Il dirigeait un service, hein. Il gérait 10 bonhommes. Toute la logistique du style de production dans lequel j'étais, il était vraiment nul. Il m'énervait et quand je lui faisais des remarques, il dissimulait. Et un jour, je me suis vraiment énervé. Je lui ai dit maintenant, taisez-vous. Et je lui ai dit un peu plus méchamment et un peu plus fermement et pas tout à fait avec les mêmes mots. Et je lui ai dit ça. Il y avait ses collaborateurs qui étaient à côté. Il est parti. Il s'est tué. Je me suis assis. Et dans les 10 secondes qui ont suivi, je me suis senti super mal. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait là? T'es un enfant de Dieu, tu parles comme ça aux gens, mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez ce que j'ai fait? Dans l'heure qui a suivi, je l'ai appelé. J'ai appelé tous ses collaborateurs. Et j'ai fait un truc, je crois qu'ils n'avaient jamais vu ça dans une entreprise. J'ai dit, écoutez, voilà, tout à l'heure, j'ai mal parlé à votre supérieur hiérarchique. Et je pense que c'est inacceptable pour deux raisons. La première, parce que naturellement, c'est inacceptable. C'est pas normal de se parler comme ça entre personnes. Deuxièmement, parce que je suis votre responsable. Et que je vous ai montré un bien mauvais exemple de ce que sont les relations humaines dans l'entreprise. C'est pourquoi j'aimerais vous demander pardon maintenant et vous dire que c'est une honte ce que j'ai fait. Je dis comme ça. Hein. Je me suis dit, c'est fini, ils ne me respecteront plus jamais. Je n'ai jamais vu des employés autant me respecter après. Comme Christ inverse les valeurs, On croit tout savoir sur le monde des relations humaines. Un jour, mon père m'a dit « Je ne demande jamais pardon, je m'excuse. » Oh, demandez pardon. Demandez pardon. Humiliez-vous devant Dieu, il vous élèvera. C'est ce qu'il a fait avec Daniel. Que fera-t-il avec vous ? Il est temps de conclure, j'ai été long. Chers amis, le commandement de Christ a la même efficacité que sa prière. Christ dit « J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. » Et ça n'a pas fait défaut. Pierre est revenu. Il dit également « Quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Et voici que Pierre a passé la fin de sa vie et le reste de sa vie à affermir ses frères. Et voici ce qu'il écrit à la fin de sa vie dans sa deuxième épître, probablement plus de 35 ans après son reniement. Il dit « Je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez déjà, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. » J'aurai un grand soin, dit-il. J'aurai un grand soin que vous soyez affermis dans cette vérité, sur le roc solide de la parole. Je prendrai bien soin de vous avertir jusqu'à ma mort qui sera subite. Et plus encore, je vais prendre mes dispositions pour que quand je serai mort, il y ait d'autres personnes qui viennent encore vous le dire. Et je ne vous lâcherai pas parce que je vous le rappellerai sans cesse, car j'ai été un jour ramené et affermi par Christ. Et la seule chose qui puisse vous ramener et vous affermir, c'est Christ. Et il vous fortifiera dans vos mains languissantes. Et il vous affermira avec vos genoux qui chancellent. Il vous relèvera si vous revenez à lui. Revenez à lui, je le proclamerai jusqu'à la fin, dit Pierre. Pourquoi ? Parce qu'il m'a relevé. Oui, la prière de Christ est efficace, et son commandement aussi. Chrétien, suivrez-vous son exemple ? Alors dites à Satan, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Et si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Et cette lumière, je la porterai parmi les frères et sœurs, et mon Dieu sera glorifié. Regardez Michée 7,8, c'est exactement ce qui est écrit dans ce passage. Laissez-moi vous dire une chose. Pour conclure, si vous êtes à Christ aujourd'hui et que ce message vous parle, si vous êtes vraiment né de nouveau, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je passe par des circonstances qui ne sont pas très simples en ce moment, à tel point que je désespère à certains moments de réellement même garder mon ministère, pour être franc avec vous. J'ai appelé une personne qui s'appelle Steve Taylor, qui est mon mentor, et je lui ai exprimé... La difficulté par laquelle je passe, les difficultés, parce que c'est un ensemble de choses. Il m'a écouté, il m'a donné quelques conseils pratiques, puis à la fin il m'a dit « La principale chose que tu dois te souvenir, dont tu dois te souvenir, c'est que tu n'es pas à la fin de l'histoire. Le générique de fin n'est pas encore descendu. Souvenez-vous de vos conducteurs, considérez quelle a été la fin de leur vie, imitez leur foi. Est-ce que tu es affligé ? Est-ce que tu souffres ? Est-ce que tu es tenté ? Est-ce que tu pêches ? Est-ce que tu luttes contre le péché ? Tu n'es pas encore à la fin de l'histoire. Le générique de fin de ta vie n'a pas retenti. Et Dieu est souverain jusqu'au bout. Confie-toi en lui. Remets ton âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Es-tu tombé ? Es-tu tombé ? Reviens. Car Dieu a encore de grandes choses pour toi en réserve. Finalement, l'application finale sera la même pour les croyants comme pour les non-croyants, pour une fois. Tu es à Christ ? Reviens. Tu n'es pas croyant et tu n'as pas encore pris la décision de le suivre ? Viens. Le cœur de ce message, c'est Christ et sa prière. Veux-tu qu'il prie pour toi ? Viens. 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 J'aimerais qu'on prenne un temps de silence ensemble, s'il vous plaît, et qu'on puisse simplement dans notre cœur demander au Seigneur de venir. Et je conclurai par la prière.